Alors, je suis bien content d'être ici à Trois-Rivières ce matin. Alors, le son est correct, oui, c'est pas trop fort, pas trop cacane, non, c'est bon. OK. Alors, je suis vraiment content d'être ici dans la belle région de Trois-Rivières. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu, hein? J'étais venu quand même il y a plusieurs années. Je pense que vous étiez dans un autre bâtiment que celui-ci, si je me souviens bien. Alors, j'habite en France. J'étais en Turquie pendant 15 ans et c'était jusqu'à 1980, jusqu'à 2007. Après, je suis venu en France. Je suis en France depuis 9 ans. Alors, ce que je vais faire, je vais introduire un petit peu sur ce que je fais en France. En fait, un petit peu d'archéologie biblique, si vous le voulez bien. Et après, on va se déplacer, on va parler un petit peu aussi de l'islam et on va parler de différentes choses. Comme ça, vous allez voir un petit peu le profil de ce que je fais. Alors, donc, j'habite en France. Vous voyez la carte de la France ici, c'est assez clair, oui. Peut-être un peu trop. Alors, vous avez Paris ici, juste là. Eh bien, j'habite là, le petit point rouge, une ville qu'on appelle Douai. Personne n'est venu à Douai me voir, hein? Oh là, c'est. Oui. Alors, mais bon, si vous avez le temps, venez voir. On est à Douai. On est une petite église en implantation. On a aussi un café imaginé avec lequel on bâtit des ponts avec les gens. C'est formidable. On n'appelle pas ça un café chrétien. On a un café avec des produits équitables. Et en même temps, les gens qui servent dans le café sont des chrétiens. Comme ça, les gens peuvent nous voir vivre. Et on est rendu le café le plus in, si on veut, de Douai, parce qu'on a des spectacles, beaucoup d'activités, soirées littéraires. Et on est là pour aider la population, la communauté. Et beaucoup de gens ont entendu l'Évangile. On a quelques personnes qui sont venues au Seigneur. Et c'est assez formidable. On a même des spectacles. On a un peu de tout. Toutes sortes d'animations. Alors, l'église se réunit dans le bâtiment du café, mais on n'a plus grand place maintenant, alors on cherche une solution. Alors, on est une petite église, en fait, hein. Alors, mais on est très actifs. Alors, vous connaissez les événements du 13 novembre à Paris. 130 personnes sont mortes. On est même concernés parce que dans nos quartiers, on a quelques extrémistes. À Douai, la police a dû faire des descentes dans des garages, il y avait des armes. Mais moi, j'ai pas de préjugés contre les musulmans. Mes voisins sont algériens, c'est des gens fantastiques, les meilleurs voisins du monde. J'ai des bons temps avec eux. Alors, dans mon quartier, et c'est eux qui payent le prix aussi. C'est eux qui sont tristes de voir ces choses-là se produire, qui subissent des préjugés. Alors, faut savoir comprendre les musulmans. Mais savoir comprendre aussi la différence entre le Coran, le message de Mohammed, et si on veut, l'islam. Alors, on va avoir une petite idée un petit peu plus tard. Alors, donc, on a aussi, je vais vous parler un peu plus loin de la polarisation, parce que souvent, les gens m'ont posé plein de questions sur la question de l'État islamique. Comment ça se fait que l'État islamique amène ce règne de terreur? Et comment ça se fait qu'ils réussissent à séduire des jeunes? Des jeunes qui étaient modernes, qui avaient, qui sortaient, qui vendaient de la drogue, qui prenaient de l'alcool, ou etc. Et tout d'un coup, ils ont une vie bien rangée, mais silencieuse, et ils embarquent dans un groupe terroriste, ils préparent leur coup. Et les familles, lorsque l'événement arrive, les familles sont dévastées, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que mon fils est devenu comme un monstre? Comment ça se fait. Ou ma fille. Alors, souvent les gens se posent des questions, comment ça se fait que des jeunes qui partent des États-Unis ou du Canada qui vont faire le djihad en Syrie. Alors, comment ça se fait que l'État islamique réussit à séduire des jeunes, à faire du recrutement? Souvent, c'est des jeunes qui sont déjà musulmans, mais qui n'ont jamais réussi, vraiment suivi l'islam, et tout d'un coup, ils deviennent radicalisés. Mais on a des jeunes aussi qui n'étaient pas du tout des musulmans. Et donc, on va parler un petit peu de la polarisation, parce que on appelle ça une polarisation. C'est quoi une polarisation? C'est que on prend une société et on la divise, on la polarise. Alors ici, la société québécoise et canadienne n'est pas trop polarisée. Hein? Entre la droite et la gauche, ou alors on se mélange bien entre nous. Mais on va voir comment ces phénomènes-là peuvent arriver. Alors, on va devoir comprendre ensemble le phénomène de punisseur-punissable. Et c'est très important pour les chrétiens de comprendre ça. Parce qu'on a un ministère de réconciliation. Si les sociétés se polarisent ainsi, entre un groupe de punisseurs, puis tous les autres doivent être des punis, des gens punissables. Si la société se polarise, c'est en raison, la grande partie, non, c'est parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, où il n'y a pas encore assez de témoins de gens qui sont réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, pour être le sel de la terre et influencer la société. Alors, on passe du coq à l'âne, on revient à notre café. Vous avez un chouette parce que j'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi. Vous savez c'est quoi? Vous en avez un à Trois-Rivières, un marché de Noël. Alors bien souvent, en Europe, c'est dans toutes les villes. Dans toutes les villes moyennes ou grandes villes, il y a des marchés de Noël. Alors avec de l'artisanat, toutes sortes de choses. Alors on fait des petites cabanes, des petits chalets comme ceci. Alors ça, c'est notre ville Douai, vous allez dire, oh, c'est joli, oui, c'est joli comme ville. Alors, on met la grande roue, on met plein de lumière, on a les petits chalets. Et la ville nous aime bien. La ville nous aimait pas en tant que chrétiens, là, hein, on est chrétiens, c'est quoi ça? C'est des bibites bizarres. Et finalement, on commence à réaliser qu'on a notre place dans la société. Ils nous ont même offert cette année, on aime beaucoup votre artisanat équitable. Vous savez, c'est quoi de l'artisanat équitable? C'est fait équitablement, les profits vont direct dans les pays où c'est fait. Alors, on a toutes sortes de choses qui viennent de l'étranger, des petites crèches de Noël, surtout à Noël. Puis on a un super kiosque avec des objets en bois d'artisanat. Puis on a toujours le café, le thé, le miel équitable, le sucre brun équitable, etc. Et la ville aime beaucoup cela, alors ils nous ont donné cette année 2 chalets au lieu d'un. Ils ont dit, hey, prenez 2 chalets, et nous on faisait le café en plus. Alors, café équitable avec la grosse machine expresso, ils ont beaucoup aimé ce qu'on faisait. Alors, c'était vraiment super, on a eu des temps formidables. Parce que vous savez, quand on fait le marché de Noël, on offre aux gens un calendrier de la nouvelle année, un calendrier chrétien, et souvent les gens ont... Et c'est rare, on veut leur donner, voulez-vous lire l'Évangile, l'histoire de Noël? On veut leur donner un Évangile. Ah, c'est très français. Ça devient un petit peu comme ça au Québec, mais en France, ils ont pris une grande longueur d'avance en termes d'athéisme. Alors, et les gens disent, non! Alors, mais, on a eu des conversions quand même. On a un couple qui est venu au Seigneur à travers le marché de Noël il y a quelques années de cela. Mais cette année, c'était incroyable. Habituellement, on vend quelques crèches, on a quelques contacts. Cette année, à cause du 13 novembre, les gens venaient, prenaient le calendrier, discutaient, voulaient un évangile, voulaient parler. On a même des musulmans qui sont venus nous poser des questions. Et les crèches se sont vendues comme des petits pains chauds. On n'avait plus de crèches. On téléphone à Valenciennes, l'autre marché de Noël, il vous reste des crèches équitables. Non, on n'en a plus, on allait vous appeler pour en demander. Ça partait à 3 endroits. Ça partait comme ça. Et apparemment, c'était à travers la France pour ceux qui faisaient des... Les gens se mettaient à acheter des crèches de Noël. Ils sont les protéger contre les terroristes, je ne sais pas, mais... je ne penserais pas. Mais... tout d'un coup, ils voulaient peut-être, disons, peut-être avoir un meilleur contact avec Dieu, le sapin, l'antenne, etc. Donc, et juste pour le fun, tiens, des petites crèches, là, péruviennes, africaines. Oh, c'est mignon! Oh, regarde là! Oh là, le bébé Jésus! Africain, frisé! Et OK. J'ai avancé trop vite. Parce que vous aimez ça, je vous la laisse un petit peu, là. Regardez. Oui, profitez-en, regardez bien. J'ai une table à l'arrière avec, il y en a tout plein, là, fait acheter. Non. Alors, c'était on a eu des moments formidables. Alors, quand j'étais missionnaire en Turquie, il y avait des catastrophes, il y avait des tremblements de terre, il y avait du terrorisme. J'étais dans le nord de l'Irak. C'était fermé autrefois, le nord d'Irak, mais il y a eu une guerre du Golfe en 89-90, vous vous souvenez? Et je suis allé là en 92, il forait pour de l'eau, parce que dans les villages, il n'y a plus d'eau, les puits avaient été détruits par Saddam Hussein. Là, on est dans le nord de l'Irak, au pays des Kurdes. Et tout d'un coup, les Kurdes se sont ouverts à l'Évangile. Maintenant, il y a des églises, il y a eu des réveils assez importants dans le nord de l'Irak, à partir de ces années-là. Et on réalisait que quand le Seigneur, pour semer, pour que la semence pénètre le sol, il est obligé de la terre dure, il est obligé de la labourer, de la tourner. Et c'est comme si cette perception-là des choses, des labours et de la semence qui pénètre le sol, on laboure aussi pour que l'eau pénètre aussi le sol, l'humidité soit absorbée par la terre, la rosée du ciel. Et là, on avait l'impression que le 13 novembre, c'est triste ce qui s'est produit à cause des victimes, mais en même temps, tout d'un coup, c'est comme si les Français avaient besoin de ça pour recevoir la semence de Dieu. C'est juste une impression. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais non. À la vôtre. Alors, je ne sais pas si vous savez, c'est le chat du matin. Je me lève à chaque matin, il y a un chat qui rentre dans ma gorge la nuit. Et quand il sort, je le vois jamais. Alors, miaou! Ah, il est encore là. Alors, je parlais que le Seigneur laboure la terre, il transforme, il remue la terre. C'est des moments de tristesse, mais en même temps, il y a des moments de semence. Et l'Europe, soyez conscients, est en train de passer à travers l'une des plus grandes crises d'immigration jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des grandes masses d'immigration, surtout des Juifs ou de d'autres. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'était la plus grande. C'est incroyable la quantité de réfugiés qui viennent de Syrie, qui viennent de la Libye, qui est en guerre. Il y en a qui viennent de l'Iran. Il y en a qui viennent de l'Afghanistan, du Pakistan. Ça vient de partout. On parle de millions qui rentrent en Europe. Alors donc, et j'habite à Calais, j'habite tout près à 1h30 de Calais. Calais et Dunkerque, c'est deux villes sur la Manche. De là, on peut regarder l'autre côté de la Manche, dire coucou aux Anglais en Grande-Bretagne. Et à Calais, il y a beaucoup de réfugiés qui se retrouvent là. Ils ont monté des camps de réfugiés de fortune. Maintenant, le gouvernement s'implique un peu pour les organiser, là, avec des maisons mobile, mais il y en a beaucoup, c'était improvisé par les réfugiés eux-mêmes, et on appelle ça la jungle, the jungle. Alors, parce que c'est la jungle. Alors, voulez-vous voir une image vue des ciels, du ciel? Alors, juste avant, je vous montre où se trouve Calais. Je vous parle de Calais, je pourrais vous parler de Dunkerque, mais parce qu'on était à Calais une semaine avant que je vienne en France, on a passé une semaine à Calais à évangéliser dans le camp de réfugiés. Alors, c'est ici. Alors, voyez, je sais pas si vous voyez bien, non, hein? C'est clair un peu, mais vous avez la Manche, elle est juste ici. Ça, c'est la France, ici. Alors, voici. Oh, merci pour les lumières. On va voir un peu mieux. Alors, c'est des abris de fortune. Comme il y avait des orthodoxes qui venaient d'Éthiopie ou de l'Érythrée, se sont bâtis une église ici, comme vous voyez. Avec des toiles de plastique, des morceaux de bois, des bouts de tente, etc. Il y a même des petits restaurants qui se sont ouverts. Quand on se promène là, on se croirait au Proche-Orient. Il y a même une église évangélique temporaire parce qu'on a des chrétiens parmi eux et parce qu'il y a des conversions, surtout parmi les Iraniens. On a des opportunités pour amener l'Évangile, des opportunités incroyables. Vous avez ici, et la question que vous allez me poser, pourquoi il y a tant de réfugiés à Calais? Il y a autant de réfugiés un peu partout en Europe. Hein? Il y en a beaucoup qui essayent de s'installer en Allemagne parce qu'il y a des jobs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'Europe. Vous êtes plus Canadien hein, qu'Européen. Ça, je le vois bien. Mais vous êtes... dans la communauté européenne, on retrouve plusieurs pays, mais il n'y a pas la Suisse, bien sûr, qui garde ses frontières. Mais tout l'espace bleu, c'est l'espace Schengen. Alors, dans l'espace Schengen, à l'instant où un réfugié réussit à rentrer en Grèce, il peut voyager dans l'espace Schengen librement, parce que les frontières sont simplement à la limite de l'espace bleu ici. Mais il y a beaucoup de réfugiés qui veulent aller en Angleterre, parce qu'ils ont de la famille en Angleterre, parce qu'ils parlent l'anglais, ils ne parlent pas français ni allemand, et aussi parce que l'Angleterre a une économie libérale, ils ont beaucoup de jobs, et le gouvernement tolère que les gens travaillent au noir, à des petits salaires en bas du salaire minimum. Alors, vous êtes Iranien, vous arrivez à Londres, vous pouvez trouver un Iranien patron qui va vous exploiter, mais ça ne vous dérange pas. On vous achale pas. Puis si vous êtes malade, vous pouvez même aller recevoir des soins, même si vous êtes illégal. Alors, beaucoup de gens essayent de rentrer illégalement en Angleterre. L'Angleterre fait partie de l'Union européenne, pardon. Je fais une petite erreur. OK. Fait partie de la communauté européenne, mais elle n'est pas dans l'espace Schengen. Ils ont décidé de garder leurs frontières et de garder aussi leur monnaie, les pounds. Ils n'ont pas les euros. Alors donc, et justement ici, il y a plein de gens qui s'accumulent là. Et juste pour vous donner une petite impression, un petit peu, des quartiers. Alors ça, c'est les Champs-Élysées. On a des enfants parce qu'il y a des familles. C'est beaucoup des célibataires gars, mais on a des familles aussi. Il y a une mafia qui s'installe aussi dans ces quartiers-là parce qu'on peut leur payer des milliers d'euros pour qu'ils nous aident à passer en Angleterre, pour nous donner les trucs pour passer en Angleterre. Il y en a qui sont là pendant 6 mois, 7 mois. Alors, ils vont passer assis sous les camions de cette façon-là. Ils ont toutes sortes de trucs. Et parfois, se cacher dans les camions, on voit un policier ici qui essaye de les déloger. Alors, et l'Angleterre en avait ras-le-bol. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait bâtir, ils ont payé à la France pour avoir dans les autoroutes, avant que les gros camions embarquent dans les bateaux pour aller en Angleterre, ils ont mis ceci. Mais les réfugiés ont toutes sortes de trucs pour couper les câbles, aller mettre des pneus sur la route pour les mettre en flammes. Les camions sont bloqués. Pendant la nuit, les réfugiés essayent d'embarquer dans les camions. On a les CRS, la police anti-émeute française qui vient avec leur matraque. Et là, les gens de Calais et de Dunkerque en ont ras-le-bol. Mais quand on a fait la petite campagne, hop, ça c'est un peu trop tôt. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors... quand on a fait la campagne, on a eu des temps formidables. Il y avait déjà des Iraniens qui étaient sympathisants, qui avaient commencé à lire la Bible dans leur pays. Certains s'étaient convertis dans leur pays, mais parce qu'il y avait un poste important, leur vie est en danger. Alors, ils ont dû se sauver. Alors, ils partent avec tout leur argent en poche et essayent de passer en Angleterre. Ou certains décident de rester en France. On en a rencontré, c'était vraiment des chrétiens, des nouveaux. Il y a des jeunes qui, à Dunkerque, qui avaient fait profession de foi, qui allaient à l'église locale où le pasteur s'occupait des réfugiés. Et ils décident de se faire baptiser. Il se fait baptiser. Le soir, il revient au camp, il se fait trancher la gorge, il se fait tuer. Alors, il y a des choses comme ça qui se passent dans le camp. On a dû, à ce moment-là, ils ont sorti toutes les familles chrétiennes. Il y avait même des familles, tous les jeunes chrétiens, mais une famille chrétienne avec une petite fille de 3 ans. On les a sortis du camp. On les a même, certains ont été hébergés à notre église, à 1h30 de route de là. Et on protégeait Ali Riza, un jeune qui avait été témoin du meurtre dans le noir. Il était un témoin potentiel pour l'enquête. Alors, il fallait sauver sa vie, sinon c'est lui qui passait. Le pasteur en question, on a tenté à sa vie 3 fois. Alors, il y a des choses qui se passent dans le camp. D'un côté, le Seigneur fait des choses. D'un autre côté, on assiste à des meurtres sordides, des choses abominables. Peut-être vous mentionnez qu'en Allemagne, il y a beaucoup de Syriens en ce moment, réfugiés syriens. Beaucoup d'églises se sont impliquées et on a vu naître beaucoup de personnes qui sont devenues chrétiennes, qui ont accepté le Seigneur et qui sont en Allemagne. Et on commence à voir beaucoup de conversions parmi ces personnes-là. Même dans les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban, on assiste à des conversions massives de musulmans. Pourquoi? Parce que les gens veulent croire à Dieu parfois. Ils crient à Dieu en se disant « l'islam ne peut pas être vrai, il y a quelque chose qui cloche dans l'islam ». Ils ne peuvent pas comprendre. Et là, le Seigneur intervient. Souvent, il va intervenir de façon miraculeuse avant qu'ils puissent rencontrer des chrétiens qui leur expliquent la Bible. Alors, je ne vous en donnerai pas de détails, là. Une partie de mon ministère aussi, c'est de faire des réflexions sur le christianisme dans les temps modernes. On fait face de plus en plus à la critique de la part d'historiens ou d'archéologues. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent sur l'archéologie biblique, qui essayent de démontrer que Jésus n'a jamais existé, c'est inspiré de mythes anciens. Et j'étais surpris, même au Québec, j'ai rencontré des parents chrétiens qui m'ont dit « notre fils a mordu à l'hameçon, a mordu à cette leurre, cet appât. » Et maintenant, il dit « ah, Jésus n'a jamais existé, c'est un mythe, parce qu'il était exposé à ces connaissances-là, qui sont toujours très fautifs. On utilise des fausses informations. » Alors, quand on parle d'archéologie biblique, souvent dans les documentaires télévisés, c'est souvent anti-biblique. Mais on ne montre pas les deux côtés de la médaille. Et pire encore, lorsqu'on questionne des archéologues, on découpe autour de leurs propos pour les éditer. Et bien souvent, l'archéologue, quand il regarde le documentaire, il dit « c'est pas ça que j'ai dit, il a coupé une phrase, il n'a pas dit tout l'ensemble de ce que j'ai dit. » Alors, par exemple, « est-ce que David a existé? » Le gars va dire « on n'a pas de preuves que David a existé, des preuves tangibles. » Mais, il va rajouter « mais il peut très bien avoir existé parce qu'il y a plein de personnages historiques, donc on croit l'existence sur la base des écrits, mais on n'a pas de preuves physiques, de monuments marqués « David était là » ou… Donc, ça ne prouve pas l'inexistence de David. Le manque de... Alors, dans un documentaire, ils ne vont jamais dire ça. Ils vont prendre ce que l'archéologue va dire. On n'a pas de preuve que David a existé. Il coupe ça, mais il oublie de dire, il peut très bien avoir existé parce qu'on a plein de personnages qui n'ont pas de preuve de leur existence, à part que des écrits. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les gens, il y a beaucoup de gens, une grande partie de la population n'attendent que cela, de croire à ces choses-là. Et on est de plus en plus dans une société où on est content, on n'a pas de Dieu, je peux faire ce que je veux moralement. Alors, les documentaires viennent alimenter cette forme de sécularisme méchant. Alors, mon but aussi, c'est de faire des documentaires, de faire de l'apologétique. Alors, on a 3 sites web. Je peux toujours les envoyer à Benoît. Paul Lézard, archéodoxa.com, geodoxa.com, Colossiens 116. Alors, dans lequel on commence à faire des vidéos, juste 3 vidéos, puis on a justement un sur les systèmes d'eau à Jérusalem. Et c'est fort intéressant. Alors, parce qu'on a découvert une grande piscine, et c'est un archéologue israélien du nom de Ronnie Rice qui dit « mais c'est fantastique ». Il dit « la peau de Jean est un témoin formidable parce qu'il a réellement vu la ville de Jérusalem avant qu'elle soit détruite par les Romains, par Titus en l'an 70. » Et c'est le seul écrit qui donne témoignage de l'existence de cette piscine. On a un témoin valable. Il n'a pas pu inventer une histoire pareille. Ça veut dire qu'il était là, il connaissait l'existence. La piscine a disparu, et c'est une grande piscine justement pour la purification. Il y avait assez d'eau, il y avait même une séparation entre les hommes et les femmes. Et on sait qu'elle existait au temps de Jésus par l'archéologie. Puis on sait qu'elle avait disparu au temps de Titus. On l'avait remblayée parce qu'on avait démoli le temple. Mais tous les piscines qui servaient à la purification des Juifs, on les avait enterrées. Alors donc, et ça avait disparu, personne n'en connaissait l'existence. Formidable, hein? Avec plein de petits bijoux en archéologie qui viennent corroborer avec cela. Alors maintenant, je vais voir un autre aspect de l'archéologie qui nous concerne. Il faut comprendre que l'Ancien Testament est un livre unique. C'est un livre de transparence. C'est un livre où les prophètes, au prix de leur vie et de leur sang, ont exposé les péchés des hommes. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, on expose les péchés les uns les autres, on est transparent, on les confesse les uns les autres, on essaye de pas trop s'accuser, on essaye plutôt de se relever. On est comme ça, il y a une transparence. Et c'est ça la beauté du christianisme. Quand je dis christianisme, disons, soyons précis. Les valeurs de Jésus, l'enseignement de Jésus en tant que disciple de Jésus. Et tous les autres anciens écrits antiques, assyriens, égyptiens, babyloniens, grecs, c'est tout de la propagande. Propagande, l'histoire est souvent de la propagande. On parle de ses victoires, on ne parle jamais de ses défaites, on ne parle jamais des péchés des rois. On va les trouver dans la description cruelle, mais il n'y a personne qui est là pour leur botter le derrière, comme on dit. On les protège. Ça ressemble un peu à des régimes comme on en connaît d'aujourd'hui, en Corée du Nord ou ailleurs, ou comme on a vécu à la Deuxième Guerre mondiale avec le nazi en Europe. Alors, donc, je vous donne un petit exemple. Alors, vous savez comment c'est spectaculaire l'archéologie égyptienne? Des grosses pyramides, des temples. Vous allez en Israël, faites de l'archéologie, c'est pas grand-chose. À part que c'est sous terre, on trouve des fondations de villes, une ancienne tour, on trouve des bouts de poterie. C'est fascinant. Ce qui est fascinant avec l'histoire d'Israël, c'est la Bible, la révélation de Dieu et l'alliance de Dieu. Le temple a été rasé, il ne reste plus rien. L'esplanade. Mais en Égypte, waouh, c'est grandiose. Ouais, c'est grandiose avec des fresques, c'est juste de la pub. Hein? Imaginez faire de l'archéologie, là, vous trouvez des panneaux de pub, hein? Ou des panneaux de pub politique, tu sais. Vous apercevoir qu'il y a un parti politique, c'est Saddam Hussein ou c'est Pharaon Ramsès II. Là, vous voyez ça, c'est plate, ça, voyons. C'est quoi? Des listes d'épicerie aussi? Alors, c'est ça l'archéologie en Égypte. C'est grandiose, mais ce que vous avez, c'est... Mais c'est quoi? Comment s'est produit le cœur de l'homme, les disputes, les querelles entre pharaons? Il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est vide. Alors, pour vous dire que il y avait même une tendance, les gens, à faire des photocopies, Photoshop, si on veut, faisaient du photoshopping des monuments. Alors, Ramsès IV, voit un beau monument fait par Ramsès III, puis il dit, oh, il y a de la gloire, lui, il y a un beau palais comme ça, puis il raconte tout ce qu'il a écrit, comment il a fait peur aux Hittites, etc., aux autres peuples autour, il était à la guerre victorieux. Ouais, on va effacer son nom, et on va marquer le mien à la place. Pas compliqué, Ramsès III, tu changes un petit 3 par un petit 4. Hein? Alors, Ramsès III, qui a bâti ce palais-là, s'est dit, comme il savait que c'était la coutume de faire de la propagande avec les temples, il s'est dit, ben voyez, il a demandé aux scribes, sculpteurs, de creuser très, 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 très creux les hiéroglyphes. C'est un exemple, c'est assez amusant, parce qu'on regarde, là, c'est plus que 10 cm de profond. Alors, il s'est dit, si mes successeurs décident de changer mon nom, il va passer pour un bozo. Parce qu'on va voir, il va avoir creusé, il va dire Ramsès IV. Oh, Ramsès IV. On sait qu'il y avait un nom avant à place, mais tu as dû creuser très, très creux. Alors, voyez un petit peu, c'est juste un exemple pour vous montrer l'esprit de l'époque. Les Assyriologues. c'est pas des gens qui travaillent dans les scieries, là. Les assyriologues s'intéressent à la culture des Assyriens. Ils disent, on peut pas faire confiance à, on peut absolument pas faire confiance à aucun écrit assyrien. Ils sont tellement gonflés, on dit ça en France, on dit peut-être ici, ils pètent tellement les bretelles, comme on dit peut-être au Québec. On ne peut pas leur faire confiance. Mais lorsqu'on lit la Bible, on peut faire confiance à la Bible parce que tout est exposé. Parce que les prophètes étaient comme des journalistes dans la démocratie, sauf qu'ils réussissaient à imprimer ou à publier leurs journaux, leurs nouvelles, au prix de leur sang. Parce qu'ils craignaient Dieu, parce qu'ils avaient vu les miracles de Dieu, puis ils étaient prêts à souffrir. Et tout est écrit. Même les péchés, même le plus grand roi de David, d'Israël, David, hein, quand il est arrivé en âge avancé, hein, il était vieux cochon, si on veut. Excusez l'expression, là. Et Dieu l'a brisé. Tac! À cause de son adultère avec Bathsheba. Et plus que ça, il a voulu engendrer un meurtre. Tout est exposé. Mais ce qu'on écrit aussi, c'est les psaumes de David qui louent Dieu, comment Dieu pardonne, comment Dieu est bon, comment Dieu nous transforme, comment on doit mettre notre espoir en Dieu, comment les générations futures doivent se rappeler de David, oui, ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais pour voir que Dieu est bon. Et c'est là, c'est un livre unique au monde, unique. Et ce qui me révolte, c'est quand je vois des documentaires qui vont jamais, jamais, jamais mentionner ça. Faites peut-être un documentaire sur la Bible. Vous voulez parler d'Abraham, vous voulez parler des Babyloniens. La première des choses, ce serait de mettre en évidence qu'est-ce qui distingue la Bible des autres écrits. Jamais ils vont ne le faire. Ça les embarrasse, ça les titille, ça les... je veux pas en parler. Pourquoi? Parce que leur vie, dans leur vie, ils n'acceptent pas d'être exposés. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a dit à Dieu, expose-moi. Je vais croire à tes bontés, tu vas exposer mon péché devant toi, je vais apprendre à l'exposer, je vais apprendre à confesser mon péché, je vais apprendre à m'humilier devant toi, parce que tu es bon et ça vaut la peine. Alors, on veut terminer, hein? Je ne vais pas passer l'avant-midi ici. Mais... Apparemment, il y a un bon repas qui m'attend là. La meilleure pizza en ville. Alors, non, c'est pas pour ça. C'est parce que si je vais garder votre attention jusqu'à la fin, c'est trop long, il n'y aura pas de fin et j'aurai plus votre attention. Alors, c'est juste pour vous dire que les autres écrits anciens, c'est comme ceci, c'est un monde de propagande. Faites de l'archéologie, puis vous trouvez des trucs comme ça, vous dites, voyons, tu sais... Ils ont donné un air intelligent, ils donnent un air de brave, ils donnent un air, tu sais, mais ils disent, la réalité, c'est quoi, là? Tu sais, les gens les suivent, les gens les... Ouais, c'est ridicule. Faites de l'archéologie, vous trouvez des trucs comme ça, vous dites, bon, vous rigolez. Quand on fait de l'archéologie, de l'Antiquité, c'est des choses comme ça que vous trouvez. Vous n'avez pas la réalité. Avec la Bible, vous avez la réalité humaine. Mais pour, au prix du sang des prophètes, je me répète un peu, hein? J'espère que ça va, mais au prix du sang des prophètes qui voulaient clamer que Dieu est bon. Hein? Est-ce qu'on peut dire Amen tout en même temps? J'aime pas manipuler les foules, là, comme les politiciens. Comme... Oh, wow! Ah, c'est beau! Alors donc, pour illustrer ce que je viens d'expliquer, hein, on a à la gauche, dans mon coin gauche, on a les devins avec les voyants qui travaillent pour l'Empire romain ou l'Empire grec ou ces choses-là. Et c'est juste pour la propagande. Hein, il fait une révélation au chef romain, on va gagner la bataille contre les Perses. Et là, les Perses de l'autre côté, ils ont un devin qui dit, on va gagner la bataille contre les Romains. Ils ont dit la même chose. Et tout d'un coup, si le moral des troupes est un peu à plat, ils disent, on va pas à la bataille avec ça, ça les a pas aidés. Alors le lendemain, ils disent, OK, devin, on va refaire un oracle. Et je pense que ton oracle va dire qu'on ne va pas à la bataille. On va en permission, je les envoie en vacances. Sinon, je vais perdre le contrôle. L'oracle dit, ah, peut-être, hein? Alors, au lieu de s'adresser à Jupiter, on va s'adresser à Vénus. Les femmes aiment toujours qu'on aille en vacances, alors là, dans une mauvaise blague, mais enfin. Eux, ils pensent à la famille, aux enfants. Hein. Alors là, ils s'adressent à Vénus, et là, le lendemain, ils disent, « Ben, Vénus nous avertit que le matin, Jupiter l'a réveillé en disant, « Ah, ils sont peut-être mieux de parler à la guerre. » Vénus nous a dit, « Ben oui, vous allez pas à la guerre. » Là, « Ouais! » Partons en vacances, on retourne à Rome. Et... C'était beaucoup de la manipulation. Du côté d'Israël, vous lisez, c'est complètement différent. Ça a toujours un but moral, un but d'édification, un but de retour à Dieu. Donc, on a ici, dans le coin droit, un petit prophète prêt à se faire couper la tête parce qu'il vient de dire au roi, « T'es pourri. » Alors, d'un côté, il y en a un qui cherche la gloire, de l'autre côté, l'autre qui cherche l'obéissance, et bien sûr, le roi n'est pas trop content. Tout est exposé, tout. Tout, 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 tout. Pour notre édification, parce qu'on voit aussi comment Dieu agit, et on voit que Dieu punit son peuple, mais ce qui est formidable avec nous, c'est que Dieu ne nous punit pas par plaisir. Avant tout, il dit, regarde, j'ai puni mon fils pour toi. Et mon fils a accepté d'être puni pour toi, parce qu'il t'aime comme moi je t'aime. Et on forme une super équipe. La plus grande équipe que j'ai jamais eue dans tous les temps. Le Père et le Fils, pour réconcilier l'humain avec lui. Alors donc, et Jésus le dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Vous ne l'avez pas voulu. » Donc, dans quelles circonstances Dieu a appelé à l'agression? Parce que là, on a une question intéressante, hein? En ce moment, beaucoup d'athées vont dire, hey, comme Richard Dawkins va dire, hey, regardez, il y avait de la violence dans l'Ancien Testament. Dieu permettait des massacres de villes entières. Comment vous répondez à ça? Il y a des réponses. Je suis là pour vous aider à donner des réponses. C'est là que je me casse la tête pour essayer de comprendre quelle est la différence. Et vous faites pareil comme les musulmans d'aujourd'hui. C'est pareil comme les musulmans aujourd'hui avec l'État islamique. Comment vous répondez à cela? Et même les musulmans qui disent, oui, nous, on le djihad, tout ça, mais dans l'Ancien Testament, c'était pareil. Non. Une grosse différence. Dans l'Ancien Testament, Dieu mettait tout le temps, je vous fais remarquer une chose, Dieu mettait tout le temps ses enfants dans une position de vulnérabilité. Dieu vous met dans des positions de vulnérabilité. Ce qui met à l'épreuve notre foi et notre relation avec lui. Et là, que ce soit Israël en Égypte, Moïse, qu'est-ce qu'on fait ici? Regarde, c'était beau, là, les 10 plaies d'Égypte, là. Mais là, là, on est devant la mer Rouge. On ne peut pas aller ni à droite, ni à gauche. On arrive à une jonction, c'est un T. Là, le gros camion qui arrive derrière, là, Pharaon avec son armée veut nous rentrer dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous dis, on n'était pas trop content après Moïse. Jusqu'au jour où on ouvre une nouvelle autoroute, là, qui est payante, hein? Mais les pharaons, les Égyptiens n'ont pas payé pour embarquer sur l'autoroute, donc ils ont été rattrapés, c'était fermé. Dieu met son peuple dans une position de faiblesse, de vulnérabilité. Et là, qu'est-ce qu'il fait après? Dieu se manifeste par une puissance surnaturelle aux yeux d'Israël et aussi des adversaires, parce qu'il veut parler aussi des adversaires d'Israël. C'est tout aussi important. Et c'est dommage que ce n'est pas tout le monde qui écoute parmi les adversaires, mais Rahab à Jéricho, elle a dit, on mérite la colère de Dieu et on sait que Dieu est là. Les Gabaonites aussi. Alors, tout le monde sont avertis. Tout le monde vienne qu'à le savoir. Alors ici, tiens, waouh, c'est animé. Alors, Dieu se manifeste d'une façon surnaturelle. Et dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir le même pattern, la même chose. Hein? Et après, Israël est appelé à prendre l'épée, l'action par épée. Mais les autres peuples étaient conscients que si Israël dérogeait de l'alliance de Dieu, eux aussi pouvaient payer pour. Vous me suivez? Intéressant, hein? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Alors, donc, un roi 18, rapidement, Élie se trouvait dans une position d'extrême vulnérabilité. Dieu avait déclenché une sécheresse par la prière d'Élie. Et là, Achab et Jézabel voulaient le tailler en morceaux et couper le cou. Même le général va voir Élie. Élie, si je te parle comme ça, puis Achab, mon boss, sait que je t'ai laissé aller pour te parler sans que je te tue, il va me tuer aussi. Hein? Mais il dit en même temps, je veux pas te tuer parce que tu es un homme de Dieu. Vous voyez un peu le point. Imagine, fallait vraiment se mettre dans une position de vulnérabilité pour Élie. Aller donner rendez-vous au Mont Carmel. Oh là, le gars est suicidaire. Vous dites, rassemblez Israël, les prêtres Baal, on va au Mont, un petit pique-nique au Mont Carmel, on va manger, on va faire une offrande. Qui va allumer le barbecue? C'est Dieu. Et là, il arrose d'eau, là, et vous connaissez l'histoire. Le feu est descendu du ciel, il a tout consommé, même la roche, même l'eau, il n'y avait plus rien. Fouam! Dieu s'est manifesté d'une façon surnaturelle avant. Les 400 prêtres de Baal, les prophètes de Baal, auraient dû tomber la face contre terre. Leur vie aurait été épargnée, ils sont restés là debout. Donc, oui, il y a une violence. Mais Dieu avertit avant. Dans l'islam, il n'y a pas ça. Dans l'islam, ça n'existe pas. Il y a une polarisation. Dans l'islam, Mohammed veut jouer les punisseurs dans la Bible envers tous ceux qui ne veulent pas croire que ce qu'il a reçu de Dieu, c'est son message, c'est le message de Dieu. Tout le message qu'il a reçu, ses révélations, ça vient d'Allah. Vous ne voulez pas croire à ça? Et c'est le sujet entier du Coran. Et là, on se pose la question, oui, mais ils passent à la violence, mais sont où les miracles de Dieu? Ah, mais il y en a qui vont dire, mais les miracles de Dieu, c'est le Coran qui a reçu. Oh là! C'est les révélations de Dieu. OK, il n'y a pas d'autre signe, il n'y a pas un autre truc, là, au moins. Un petit nuage prend une forme de quelque chose, là, bien évident. Juste au moins un petit miracle, là. C'est juste ça. Moi, je peux arriver à n'importe qui sur Terre puis dire, j'ai une révélation du dieu Baal. Flacalablo, planglaboclo. Et là, vous allez dire, je comprends rien. Et deuxièmement, prouve-moi que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu parce que je te le dis. Et si tu t'opposes à moi, parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont des épées, et ça s'est répandu comme ça, l'islam. Très différent. Et c'est pour ça que l'islam développe le concept de punisseur dès la source, dès la base. Mais heureusement qu'il y a plein de musulmans qui ont une conscience et que plein de musulmans qui ne comprennent pas l'islam, qui ne connaissent pas l'histoire de l'islam. Heureusement. Et heureusement qu'ils s'aveuglent sur ça puis se disent « Non, c'est une religion de paix ». Parce que sinon, s'ils seraient trop obéissants et connaîtraient trop le Coran, ça serait trop dangereux. Mais il y en a beaucoup qui décrocheraient aussi, je vous dis. Alors donc, c'est et le système de punissable, juste pour terminer, jusqu'à quelle heure on termine? Hein? Il y a déjà Benoît? Hein?
On termine vers
11h15. 11h15? Et 30. Ah, oh, phew. OK. Parce que le dernier, c'est le dernier punch, là. Ça, c'est important. La dernière petite partie. Vous tenez le coup? Vous n'avez pas trop chaud? Vous avez trop chaud dehors et vous avez le climat pour vous refroidir. Alors, mais à 11h30. Pas tout de suite. OK. Alors, c'est quoi le système de punisseur punissable? L'être humain tombe dans ce piège-là quand il ne comprend pas c'est quoi la réconciliation avec Dieu. En Europe, même s'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas chrétiens, beaucoup de gens entendaient dire le Fils de Dieu a été sacrifié pour nos péchés, il est mort pour nous, parce qu'on était tous punissables. Voyez un peu? Ça donne beaucoup d'impact dans la société inconsciemment, même aux personnes qui ne sont pas converties. À l'instant où on se débarrasse de ça et que Jésus est plus une victime, il n'existe plus, il n'est pas une victime pour nos péchés, il est... automatiquement, on va chercher un bouc émissaire ou des victimes. Parce que ça va mal dans la société. Hein? En 1929, une grosse crise économique à travers le monde entier. Il fallait blâmer des gens. Dans certains pays plus chrétiens où on se disait, on est à blâmer. Pour une raison bien claire, la spéculation, on voulait posséder plus que ce qu'on possédait sur papier. C'était ça la crise. Si vous l'étudiez, là, c'est ça. La banque vous fait croire que vous avez ça alors que vous ne l'avez pas et la banque n'a même pas l'argent pour vous prêter. On vous prête plus que ce que l'argent a, que la banque a, pardon. C'est immoral. Immoral. La société, le capital, était devenu immoral. Enfin, 1929, la grosse crise, l'Allemagne commence à crever de faim. Première guerre mondiale, c'est une folie, etc. Et après, là, faut blâmer quelqu'un. Les communistes, tiens, les juifs. Et là, Hitler a trouvé son bouc émissaire. Et là, il a polarisé la société pendant 10 ans jusqu'à 1939. Il a polarisé la société avec un parti dans lequel que on va être les punisseurs parce qu'on a découvert qui sont les punissables. Et si on les punit, et on se débarrasse d'eux, la paix va revenir. Ils ont trouvé un bouc émissaire. Punisseur. Et là, vous êtes là, j'écoute, j'ai des voisins. La Gestapo vient chez vous. J'ai des voisins juifs. J'ai rien contre eux. On s'aide, des bons amis, tout ça. Le Gestapo te regarde. Si t'es pas du côté des punisseurs, tu vas devoir te ranger du côté. Tu vas tomber dans la catégorie punissable. Wow. Non, non, non. Je n'ai pas à prendre parti du côté. Tu veux pas prendre parti du côté du parti nazi? Là, tu te dis, si t'es hypocrite, tu vas dire, tu vas mettre ton masque. Tu dis, Heidler, et là, tu vas te ranger du côté des punisseurs. Ha! Les Juifs. OK? On polarise la société. Et même si le gouvernement engendre un paquet de partisans qui viennent du côté des punisseurs, même si c'est tous des hypocrites avec des masques, il est bien content, lui. Il s'en fout, le cœur de l'homme. Il s'en fout qu'est-ce qu'il y a à la racine, s'ils sont convaincus ou non. Lui, ce qu'il veut, c'est des gens qui sont de son côté. Wow, ça c'est l'ennemi, le piège juré, ça c'est l'ennemi. L'ennemi essaye de polariser la société et d'amener le chaos. Alors dans beaucoup de, je vais donner un exemple, la Deuxième Guerre mondiale, alors du côté des punisseurs, dans le coin droit, vous le connaissez, l'homme à la petite moustache, et vous avez aussi des punisseurs. Et vous avez la même chose dans le communiste. Et là, c'est maintenant vous rentrez en jeu. J'ai un rôle pour vous. Non, pas moi. Le Seigneur a un rôle pour chacun de nous. Rappelez à l'humanité quelque chose de formidable. Enfin, j'avais oublié cette image-là. Scapegoat, hein, le bouc émissaire. On cherche toujours des boucs émissaires. Et le grand message de l'Évangile à l'humanité, même s'il y en a qui ne se convertissent pas, au moins vous pouvez expliquer ce que je viens d'expliquer, c'est que Dieu dit à l'humanité entière, vous êtes tous punissables. Tous. Avant d'aller chercher la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, regarde ce qu'il y a dans la tienne. Une poutre en acier du pont de Trois-Rivières. J'exagère parce que c'est ce que Jésus voulait faire, une grosse poutre. Il y a quelque chose de grave dans l'humanité. Et Dieu dit arrêtez. Jésus dit arrêtez. Vous êtes tous punissables. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu dit j'ai une colère contre vous tous parce que vous êtes tous punissables. mais je vais la faire tomber sur mon fils. » L'homme auquel on n'avait aucune raison de punir, parce que ce qu'il a fait à l'humanité est extraordinaire. Jamais un homme avait marché sur terre en faisant autant de bien à l'humanité. Mais en même temps, il révélait le piège de l'ennemi, le piège de notre nature pécheresse, le piège de l'humanité de chercher à jouer les punisseurs. Et c'était en plein ce que les pharisiens faisaient avec l'alliance de Dieu. Imaginez, de l'alliance de Dieu, de les prophètes de l'Ancien Testament, tous les écrits de Dieu. Et là, tu veux utiliser ça pour jouer les punisseurs. Moi, dans la société, je vais dire que je vais vous enlever vos pailles dans les yeux, là. C'est ça, les pharisiens, un piège, le piège de l'ennemi, de polariser la société en punisseurs, punissables, Jésus dit. Il expose ça, cette manigance-là. Et d'un côté, il fait un bien extraordinaire à l'humanité comme jamais. Et tout ça, il savait où ça le conduirait. Et Dieu dit, celui qui ne devait pas être puni, je le punis pour vous. Et il accepte d'être puni pour vous, parce qu'il vous aime. Il y a une complicité entre moi et mon fils. On travaille ensemble pour vous adopter, pour vous aimer, pour vous réconcilier, parce que vous aviez besoin d'être réconciliés par la nouvelle alliance. Et ça, depuis le jardin d'Éden. Donc, on se laisse avec un petit verset que je vais lire à reculons. Hein? Pas un petit verset, mais un texte. « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est ce que je me force à dire à tout musulman. On est tous punissables. Essayez pas de chercher qui doit être puni, On est tous punissables et à l'amour de Dieu. Et on a ici, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de qui? De nous? Non, de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On a un ministère de la réconciliation. On crie à l'humanité, stop! Arrêtez de chercher qui sont punissables. Arrêtez de chercher de vous ranger du côté des punisseurs. Et les jeunes qui tombent dans les mouvements extrémistes, vous savez pourquoi ils tombent là-dedans? Parce qu'ils ont eu la conviction qui est vraie que l'humanité ou la société a besoin d'être punie. Il y a des jeunes qui ont souffert, qui en ont bavé, comme on dit, dans leur famille ou dans la société, et qui sont en colère et qui disent « la société a besoin d'être punie ». Toute la société a besoin d'être punie. Dieu a déjà puni son fils pour nous. Mais ils ne savent pas. Là, ils veulent. La société a besoin d'être punie. Waouh! Allah, le grand punisseur. Il nous invite à embarquer de son côté à lui pour punir. Et après, j'ai un ticket pour le ciel, là, direct, si je me fais sauter avec une bombe. Et là, ça va tuer plein de gens qui ont besoin d'être punis. Oui, on a besoin d'être punis. Mais Satan amène des gens à vouloir jouer cette carte de la justice qui est complètement fausse, complètement erronée. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole, la réconciliation. Nous faisons fonction. C'est là votre rôle à jouer, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, le monde entier, nous vous en supplions, pour ceux qui ne le sont pas, soyez réconciliés avec Christ. Hey, just on time! Merci!